Nous sommes vendredi le 29 mai et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, nous sommes rendus à la fin du mois et comme vous êtes habitués d'être accompagnés avec mes deux collègues, M. Yann Stoll et M. Gilles Boivin, deux militants, deux quasiment spécialistes du drame de la protection de la jeunesse au Québec. Malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui pour des empêchements et je les remplace cette fois avec la même voix. Alors, puisque nous partageons justement le même objectif, c'est celui de sensibiliser la population à la problématique de l'abus du pouvoir et des injustices, entre autres cette institution gouvernementale qui est devenue, par le temps, tellement complexe et d'un énorme poids impossible à résoudre. On parle de milliers et de milliers d'enfants, de parents et de familles détruites par l'incompétence, par l'abus du pouvoir, par l'absence du contrôle et le fait que personne n'ose intervenir quand il s'agit de la direction de la protection de la jeunesse. Celles et ceux, justement, qui ont essayé jusqu'à nos jours, ils ont échoué tout simplement. Alors, je vous rappelle, chère auditrice, chers auditeurs, à titre justement d'information, que mes collègues Yann Stoll et M. Gilles Boivin sont tous les deux des bénévoles. Et rien ne les force de s'occuper de ces sujets de société, sauf bien sûr cette conscience vivante, préoccupante d'un citoyen responsable, solidaire avec l'ensemble pour une société meilleure. Ici, par moment, on parle de crimes contre l'humanité. Alors, pour tous, tout seul et ceux qui œuvre pour ralentir ou bien pour stopper définitivement l'abus du pouvoir de la direction de la protection de la jeunesse, on leur dit merci et on leur dit aussi continuez votre combat parce que votre combat est loin, est loin d'être achevé. Alors pour celles et ceux aussi qui sont aux prises dans les griffes de la direction de la protection de la jeunesse et qui veulent justement communiquer avec mes deux collègues Yann Stoll et Gilles Boivin, vous pouvez en tout moment justement les appeler via Mage au 514-273-4302, donc je répète 514-273-4302, ou bien vous pouvez les écrire aussi à info@commercialmage-québec.com. info@commercialmage-québec.com. Alors vous pouvez bien sûr les rencontrer selon leur disponibilité. Je vous préviens que ces deux militants ne sont pas des avocats, mais l'expérience et le combat peuvent servir comme un bon éclairage pour les victimes. Je vous rappelle aussi, au même titre justement, que ces deux militants sont bien branchés sur l'actualité de la DPJ, bien instruits pour accuser pleinement la DPJ au Québec de crimes contre l'humanité. Alors vous savez, chère auditrice, chers auditeurs, avant d'entendre justement et rencontrer les victimes de la direction de la protection de la jeunesse, s'il y avait quelqu'un qui est venu me parler de crimes contre l'humanité, je vais l'envoyer se promener. Mais une fois, je vous jure une fois, être témoin de cette réalité, le regard change définitivement. Je vous rappelle toujours, chère auditrice, chers auditeurs, que la théorie de la mission justement de la direction de la protection de la jeunesse est idéale. Alors on parle d'une mission idéale, voire même surprenante, trop humaine, indispensable, mais le constat, le résultat et la vérité sur le terrain disent malheureusement le contraire. C'est un énorme échec qui ravage dans l'ombre et le silence des populations d'enfants au Québec. Alors on parle d'une vraie catastrophe où les fonctionnaires de cette institution se donnent le droit d'enlever des enfants à leurs parents, en vérité sans droit réel. Ces fonctionnaires sont devenus ironiquement, encore plus puissants que des juges dans les tribunaux. Rarement qu'un juge fait obstacle à un fonctionnaire de cette institution pour dégager toute responsabilité. Nos juges exécutent parfois à la lettre des propositions dictées par ces fonctionnaires et les enfants au Québec demeurent à la merci de ces injustices. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, malgré un grand nombre de citoyens qui se sont rendus justement comment finalement à cette évidence, malgré les plaintes en continuité sur surtout les parents, les grands-parents victimes de cette institution, l'État refuse depuis longtemps, refuse de déclencher une enquête publique. Et quelle enquête, cher auditeur, qui pourra rendre justement justice à des milliers et des milliers d'enfants de ces générations qui n'arrivent pas à comprendre quoi que ce soit tellement que c'est traumatisant. Alors nous espérons tout simplement qu'une enquête de vigueur puisse un jour épargner à d'autres enfants le drame de l'abus du pouvoir de la direction de la protection de la jeunesse. Les enfants, je dis bien, les enfants de l'État, ça n'a pas marché. Je répétais bien, les enfants de l'État, ça n'a pas marché et ça ne marchera tout simplement pas. En définitive, l'État a échoué de remplir cette mission. Chère auditrice, chers auditeurs, si vous avez des enfants, je vous supplie. Alors, je vous supplie tout simplement de faire pour ne pas donner cette occasion à la direction de la protection de la jeunesse. Enlever un enfant sans droit est possible au Québec. Il ne faut pas grand-chose pour enlever un enfant à ses parents. Il suffit un simple signalement et avant même de vérifier quoi que ce soit, vous risquez d'être traumatisé à vie. Alors voilà, chers auditrices, chers auditeurs, de ce côté-là, nous avons un sérieux problème de société. Ce n'est surtout pas des exemples qui manquent, mais la dénonciation publique, nous pensons qu'elles ne sont pas assez, elles ne sont pas à la même hauteur de la catastrophe. Alors, sortez de votre silence et parlez à haute voix. On le fait et ça fonctionne à merveille. Chers auditrices, chers auditeurs, en ce moment précis, j'ai une pensée particulière à Mehdi, l'histoire d'un enfant pris par la DPJ, une histoire bouleversante, accablante, un peu trop douloureuse même, l'histoire aussi d'une mère, une femme extraordinaire par son combat, un combat qui a duré longtemps et que la plupart des politiciens avaient entendu parler de lui. Alors, et je dis bien, si un jour il y aura une enquête qui mette de la lumière autour de cette vie, la vie de cet enfant. Rappelez-vous son nom, le petit Mehdi. Nous allons tous avoir honte d'avoir existé. Alors, c'est un pur échantillon dans cette histoire-là de cet enfant-là qui s'appelle Mehdi. C'est un pur échantillon de la catastrophe de la direction de la protection de la jeunesse au Québec. Quand mon collègue Yann Stoll parle de crimes contre l'humanité à l'endroit des enfants pris dans le piège de la DPJ, je lui donne encore une fois raison. Je suis en définitive traumatisé par ce que j'ai entendu et par ce que j'ai vu personnellement. Alors, je souhaite que mes collègues Yann Stoll et Monsieur Boivin reprenne l'air flambeau justement qui me brûle présentement. Voilà, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, ce matin, nous avons sur le plateau deux personnes. Alors, nous avons Madame Danielle Dossus et son père aussi, Janit. Cette famille qui n'a jamais connu le malheur de la direction de la protection de la jeunesse vient d'être frappée à son tour. Et avant de juger quoi que ce soit, nous vous inviterons à rester à l'écoute après notre thème musical. Peut-être en écoutant le témoignage de cette mère, de ce grand-père, peut-être vous changez d'avis et n'oubliez jamais, vous n'êtes jamais, je dis bien jamais, jamais à l'abri de la direction de la protection de la jeunesse. Restez à l'écoute.
Sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune,
un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà, bonjour, rebonjour, pardon, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, nous sommes à la fin du mois, comme je l'avais déjà dit, et normalement, c'est supposé mes collègues Yann Stoll et Monsieur Gilles Boivin qui vous parleront de la problématique de la DPJ. Et alors, je prends la relève. Donc, j'ai avec moi dans le studio ce matin, une maman, une jolie maman de 30 ans et son père. Alors, bonjour Madame Danielle Dossis.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et de venir ce matin sur ce plateau-là justement pour dénoncer, pour dévoiler un petit peu votre situation. Alors, si on reprend un petit peu votre train de vie, vous étiez étudiante en administration?
Oui.
Vous êtes d'origine, vous êtes né ici au Québec. Hein?
Je suis né ici au Québec.
Et, mais vos parents sont d'origine haïtienne, c'est ça?
Oui.
Alors vous avez étudié ici au Québec. Vous êtes une pure Hélène québécoise. Vous avez suivi des cours en administration. Vous avez réussi à avoir votre diplôme.
Oui.
En quelle année?
En 2010.
En 2010. Et en même temps. Vous rencontrez l'homme, vous avez rencontré un homme avant, j'imagine, ou avec qui vous avez fait des enfants.
Oui, exactement.
Oui. Et malheureusement, ce père-là, il était déporté par l'immigration Canada.
Non, exactement.
Pour une affaire de. De paperasse. Et, ok. Alors, quand même, est-ce qu'il y a, une possibilité qui revient ou non?
Non.
Il n'y a pas de possibilité. Okay. Immigration Canada. Et ses enfants, ils sont ici au Québec?
Oui.
Ça, c'est parfait, ça. Alors, les enfants, ils vont vivre, sans le papa, c'est ça?
Exactement.
Alors, à partir de là, vous êtes devenu responsable. C'est vous qui vous avez pris le relève de faire le rôle du papa et de la maman en même temps.
Exactement.
Exactement. Alors, parlez-nous, madame, là, vous avez travaillé, et à un moment donné, vous êtes devenue femme de foyer parce que pourquoi vous avez décidé de ne pas, par exemple, travailler et s'occuper des enfants?
Parce que mon fils, il a eu un handicap. Donc,
vous avez un enfant avec un handicap?
Oui.
Il est handicapé?
Il est handicapé.
Oui.
Donc, il fallait que je m'occupe de lui plus souvent que d'habitude. Donc, c'est pourquoi que je suis restée mère au foyer.
Alors, vous avez décidé, avec propre volonté, d'être une femme au foyer. Vous avez voulu s'occuper de vos enfants, entre autres un enfant qui est handicapé. Ça demande énormément de temps. Et là, vous avez vos enfants. J'aimerais vous poser la question, Madame Dorsus. Est-ce que avez-vous des antécédents judiciaires? Avez-vous des problèmes avec la police?
Non.
Dans toute votre vie, vous n'avez jamais eu de problème?
Jamais.
Parfait. Et vous êtes dans une famille de combien d'enfants?
5.
Vous êtes à 5 enfants. Vous avez toujours vécu avec vos parents?
Exact.
Jusqu'au moment où vous avez décidé de faire votre propre vie?
Exactement.
Exactement. Alors, vous n'avez pas de problème avec des antécédents judiciaires au cours de toute votre vie. Avez-vous eu des problèmes avec la direction de la protection de la jeunesse?
J'en ai jamais eu.
Vous n'avez jamais eu?
Non.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'il y a un petit problème avec la DPJ?
Oui, j'en ai entendu parler. Beaucoup.
Oui, oui.
Auparavant, j'ai entendu des problématiques,
oui.
Mais je ne pensais pas que ça aurait pris toute cette envergure que j'ai vue aujourd'hui. Franchement, j'ai étonné.
C'est-à-dire, l'image, c'était pas la même chose.
C'était pas la même chose.
C'est-à-dire, maintenant, vous avez un autre regard par rapport à la direction de la protection de la jeunesse?
Exactement.
OK. Alors, maintenant, avant de rentrer là, de votre jugement, revenons un petit peu, on recule un petit peu en arrière. Alors, en 2013, l'été 2013, vous circulez sur la rue avec votre enfant et avec votre fille. Votre
oui.
enfant, à ce moment-là, il avait 7 ans, c'est ça?
Il avait 7 ans, oui.
Alors, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé là? Cher auditeur, il faut bien comprendre qu'avant cet incident-là, madame, elle avait sa famille, elle vivait bien avec ses enfants, et il n'y avait pas de problème. Okay? Alors imaginez-vous, en fraction de seconde, elle circule sur le boulevard, et puis à un moment donné, écoutez, là, elle va vous raconter la fin de l'histoire.
Oui, en mai 2013, mon fils fait une crise pour une crème glacée.
Il vous pique une crise pour lui acheter une crème glacée.
Exactement.
Alors, vous l'avez acheté la crème glacée ou non?
Je n'ai pas acheté parce qu'on était déjà allé la veille à la crèmerie.
OK, parce que vous l'avez déjà acheté la veille, une crème glacée.
Oui.
Et là, vous avez décidé de lui dire non.
C'est non.
C'est parfait. Non, c'est non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Est-ce qu'il a accepté ou non?
Non, il n'a pas accepté.
C'est un enfant de 7 ans, j'imagine. On peut comprendre. Il a refusé ce nom-là et vous a piqué une crise sur le trottoir. Je veux une crème glacée.
Exactement.
Alors, allez, vous faites quoi, vous, madame? Vous avez une fille dans la main droite et lui dans la main gauche.
Exactement. Là, ça a pris beaucoup de courage et de patience avant que, malheureusement, que je l'ai tapé avec un sac de pain.
Alors, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, on parle d'une mère, là, avec deux enfants. On parle d'une histoire, hein. Si on recule un petit peu, là, elle n'a jamais eu de problème avec ses enfants. Ah, ben, des problèmes. On a tous des problèmes avec nos enfants, là, OK. Elle circule sur un boulevard, OK. Alors, à un moment donné, un enfant, son fils, il va piquer une crise. Je veux. Il insiste d'avoir une crème glacée. La maman refuse. Elle dit non. Cette fois-là, vous n'aurez pas une crème glacée. Alors, il pique une crise. Il commence à pleurer, faire sa crise et tout. Et elle avait dans la main, dans l'une de ses mains, elle avait sa fille et elle avait aussi un sac de tranches de pain. Ça, c'était un sac tranches de pain. On parle de qui pèse rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour lui dire arrête là? Elle lui donne un coup avec le sac de pain sur la tête. Arrête, arrête votre crise. Et elle essayait vraiment de maîtriser la situation. Alors, il y a quelqu'un, un passant, qui passe à côté, je sais pas, qui prend son téléphone et appelle 911. Mais c'est quand même étrange, madame, quand même. Vous dites aujourd'hui, là, vous avez la certitude de nous dire que, à part ce coup de pain, vous ne l'avez pas donné un coup de pied au visage ou
non.
Vous ne l'avez pas torturé, là.
Non, c'est par la suite que j'ai appris par les rapports qu'ils ont inventé tellement l'histoire de toute pièce que
oui.
J'en ai même peur.
Oui, mais vous, pour vous, vous avez pris le sac et vous vous souvenez bien, vous l'avez donné un coup sur
un seul coup.
Arrête, that's it, là.
Oui.
Si j'étais à la place, peut-être moi, je donnerais une claque, là.
J'ai juste le sac de pain.
Même pas un claque, là.
Même pas.
Une claque, OK. Vous l'avez donné un sac de pain, arrête, c'est ça. Parce que vous étiez vraiment. Parce qu'il ne comprenait pas.
Oui.
Alors là, c'est un sac, et puis comme j'ai dit, une passante ou un passant prend son téléphone, il appelle 911. Et d'un seul coup, les gros sabots, là, ils sont intervenus. Là, vous trouvez une voiture de police devant vous.
Oui.
Alors, vous étiez quoi, là? Vous faisiez quoi, là? Vous êtes surpris? Vous demandez quoi, là?
Là, je demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police?
Pourquoi la police sont là?
Oui. Puis là, ils m'ont dit que c'est parce qu'on a vu que vous avez tapé votre fils avec un sac de pain. Donc, on se demandait si vous n'êtes pas fatigué.
Ils vous ont dit vous êtes fatigué?
Oui. Eux-mêmes qui dénoncent que vous êtes fatigué avant que vous dites que vous êtes fatigué.
Ils vous ont dit vous êtes fatigué, madame?
Oui.
Et puis?
Par la suite, ils m'ont dit, nous, on peut, à mesure d'urgence, On va prendre votre fils.
C'est la police ou c'est la police? Ou après quelques minutes, que vous m'avez raconté, après quelques minutes que la police sont venues, vous ont dit, madame, peut-être vous êtes fatiguée et tout. Eux, ils font une affaire à la DPJ.
Oui.
Et des agents de la DPJ, ils débarquent sur le lieu.
Oui.
My God. Alors, voilà, c'est le cirque au total. Et qu'est-ce que les employés de la DPJ vous ont dit quoi, madame?
Eux, ils m'ont dit, ils allaient mettre mon fils sur une famille d'accueil. D'urgence.
Sur la place.
Sur place.
Mais arrêtez là, parce que là, j'essaierai de comprendre quelque chose là. Je suis un petit peu dans la lune. Est-ce que vous avez donné votre version? Écoutez là, c'est mon fils qui pique une crise pour une crème glacée. Je lui ai donné un
j'ai
coup
expliqué.
Hein?
J'ai expliqué.
Est-ce qu'il avait des blessures? Est-ce qu'il avait.
Non.
Hein?
Non, il n'y a aucune blessure, aucun dommage, rien.
Rien du tout. À part le coup de sac de pain, de tranche de pain sur la tête, vous n'avez pas frappé en aucun moment l'enfant?
Aucun moment.
Ok. Est-ce que vous avez, j'imagine, vous avez crié sur l'enfant?
Même pas.
Vous n'avez même pas crié sur l'enfant?
J'ai même pas crié.
Mais celui qui a appelé parce qu'il y avait un conflit entre l'enfant et vous, j'imagine?
Non, même pas. L'enfant faisait sa crise et puis moi, j'ai pris le sac de pain et j'ai tapé.
C'est vraiment compliqué là, parce qu'imaginez, n'importe qui peut passer et prend son téléphone, un signalement comme celui-ci. Alors regardez, chère auditrice, chère auditeur, parce que vous allez voir là, c'est la situation, elle est vraiment catastrophique là. Parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait, madame, là? Une fois, la DPJ sont venus, alors ils ont retiré l'enfant sur le lieu.
Sur le lieu, ils retirent mon fils.
Bye bye.
Et ma fille, ils m'ont fait retourner à la maison avec.
Qui vous a conduit à la maison?
Les policiers.
Alors, ils ont fait le taxi, ils vous ont amené chez vous.
Oui.
Avec votre fille.
Oui.
Mais votre garçon, il n'était pas avec vous, là.
Non.
Il s'est retiré sur le lieu, là.
Sur le lieu.
Oh my God. Alors, vous partez, qu'est-ce que vous laissez votre enfant derrière vous, ou quoi?
Ben, ils m'ont dit que vous n'avez pas le choix de laisser l'enfant derrière vous.
Okay.
J'ai pris ma fille, on est rentré à la maison, et une heure plus tard, ils sont revenus chercher ma fille.
Ah, alors c'était pas fini encore, là. Une heure après, ils vont revenir voir, Mais expliquez-moi, madame, sur quel motif ils ont expliqué quoi, là, pour...
Ils ont expliqué qu'il fallait que ma fille soit là pour qu'on voit que si elle aussi, elle faisait aussi battre à la maison. Ce qui n'était pas le cas à l'époque.
Alors, pour eux, directement, ils ont jugé comme quoi vous avez battu votre enfant, c'est ça?
Exactement.
C'est un peu spécial, hein. Alors, madame, expliquez-nous maintenant, là... Là, la police, il revient, probablement que la DPJ, c'est eux qui ont. Ils retirent aussi la fille du foyer, là. Alors, vous n'avez ni le garçon, ni la fille. Alors, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé après, madame?
Par la suite, ils sont partis en famille d'accueil à Terrebonne.
Ils ont amené les enfants à une famille d'accueil?
Oui.
OK.
Et la famille.
Cette soirée-là?
Cette soirée-là.
OK.
Et là, la fille me rappelle 16 heures plus tard, donc le lendemain, le 3 mai.
Et le lendemain, qui vous a appelé?
La madame de la famille d'accueil qui m'appelle.
Vous ne la connaissez pas, vous?
Je ne la connais pas.
Alors, la DPJ, ils ont amené vos deux enfants dans une famille d'accueil quelque part. Et vous n'avez pas d'avis. Alors, et le lendemain, si j'ai bien compris, le lendemain, vous me corrigez, madame, si je me trompe, le lendemain, vous recevez un appel de la famille d'accueil, la responsable de la famille d'accueil, qui vous dit, madame...
Venez chercher vos enfants.
Venez chercher vos enfants.
Ils sont trop capricieux. Reprenez-les.
Reprenez vos enfants.
Oui.
Alors, elle n'a pas appelé la DPJ, elle vous a appelé vous?
Non, c'est la famille d'accueil même qui m'a appelé. Elle, ils ont appelé pour avoir le numéro à la DPJ pour qu'ils puissent m'appeler.
OK.
Oui.
Et ils ont appelé la DPJ pour avoir votre numéro de téléphone.
Oui.
La DPJ leur a donné votre numéro de téléphone.
Oui.
Et la dame de la famille d'accueil vous appelle pour vous demander, venez chercher vos enfants.
Oui.
Là, il y a un problème, là. C'est comme ça que c'est produit.
C'est comme ça, comme je vous
Exactement.
Raconte. Oui.
Et là, vous décidez, vous prenez vos affaires, vous allez directement aller chercher vos enfants.
Exactement.
Vous n'avez pas rencontré un fonctionnaire de la DPJ pour vous donner l'autorisation? Rien.
La fonctionnaire, justement, je ne sais pas si c'est le travailleur social, mais...
Qui était là sur le lieu?
Elle était là sur le lieu.
Dans la famille d'accueil?
Non, la famille d'accueil l'a emmenée dans son bureau, puis ils ont dit comme ça que reprenez vos enfants.
OK. Donc, la famille d'accueil, ils vous ont amené vos enfants dans un bureau de la DPJ, et à partir de là, ils vous ont donné, vous confiez vos enfants.
Oui.
Alors, vous rentrez avec vos enfants, mais c'est une bonne chose, ça. Alors, vous rentrez avec vos enfants à la maison.
Oui.
Et l'histoire est finie?
Non, malheureusement, non. J'aurais bien voulu qu'il soit fini, mais non. Apparemment qu'ils ont procédé à un examen physique le 13 mai.
Combien 13 mai? Combien de... Vous parlez de...
Ben, je vous dirais que 10 jours après l'événement.
10 jours après?
Oui.
OK.
10 jours après l'événement, ils ont fait un examen physique à mon fils. Entre-temps, ils m'ont détourné le regard pour que je puisse aller à la police. Et j'ai rencontré une détective qui me posait plein de questions.
Mais quand vous dites qu'ils ont fait ils ont fait un examen physique à l'enfant, et c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont venus, ils ont repris l'enfant?
Ben, apparemment que c'est pendant que je suis allée...
De l'école?
Oui, pendant qu'il était à l'école, probablement qu'ils l'ont
et,
fait.
Et c'est là, il y a quelqu'un qui est venu et puis il a fait un examen physique.
Exactement, et dans l'examen physique, il n'y a rien. Absolument
vous,
rien.
Vous ne dites rien, mais est-ce que vous frappez votre enfant, madame?
Pardon?
Est-ce que vous frappez quelqu'un, vous êtes une mère qui frappe son enfant?
Non, voilà.
Okay. Sur le physique de votre enfant, est-ce qu'il y a des marques? Il y a des quoi que ce soit?
Vraiment pas.
Il n'y a absolument rien.
Rien. Sauf qu'ils disent qu'apparemment, pour rajouter un peu de piquant, ils ont mis qu'il y avait un peu de lésion sur le dos. Et pourtant, je n'ai pas frappé sur le dos. Oui.
Il y avait quoi?
Des lésions sur le dos.
Est-ce qu'il y avait des lésions sur le dos?
Non.
Est-ce que vous l'avez amené chez un autre médecin pour voir s'il avait vraiment...
Moi, j'avais aucune idée à l'époque qu'est-ce que c'était, cette évaluation physique. Je l'ai appris au mois de janvier 2015.
OK, mais vous avez pu aller voir un autre médecin pour qu'il fasse un autre rapport, comme quoi s'il a réellement des...
Mais honnêtement, moi, je sais que son dos, je n'ai pas touché son dos.
Donc, quand vous dites, madame, vous n'avez pas touché son dos, vous avez touché un autre endroit de son corps?
Non, ça, pour le pain, c'est sur la tête. Alors, comment voulez-vous que ça fasse dans le dos? Okay. C'est là ma question.
Avec le pain?
Oui.
Vous parlez toujours du sac du pain, là, le coup que vous avez donné sur le pain, là, sur la tête, là.
Oui.
Mais en aucun autre moment, vous avez frappé...
Non. Voilà.
OK. Alors, peut-être qu'il a eu marque parce qu'il est tombé d'une bicyclette, il est tombé par terre. C'est des enfants qui jouent. Hein. Mais, et sur ce rapport-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, la DPJ?
Ben, ils disent que comme il y a les lésions au dos, ils ont décidé de...
De le retirer?
Ben, de le retirer, non, pas
non,
encore.
Ils l'ont pas retiré?
Non, pas encore.
Ils l'ont laissé?
Ils l'ont laissé.
OK.
Et apparemment...
Excuse-moi, madame, juste, mais vous, qui vous a dit qu'il y avait des lésions, des marques sur le dos?
Je l'ai su en janvier 2015, en allant
à la cour. En 2015?
Oui.
OK, mais en 2013, il n'y a personne qui vous a parlé de rien?
Non.
OK, parce que si vous en parlez, vous avez pu courir, voir un autre...
Exactement.
Voir. Mais eux, ils ne vous ont absolument rien dit?
Rien dit.
Il y a des marques sur le dos, point final. Que, en 2015, vous vous rendez compte comme quoi, dans le rapport, ils ont marqué qu'on a trouvé des marques
Exactement.
Sur le dos de l'enfant. OK. OK, alors maintenant, 2013, des jours après, vous savez même pas qu'ils ont procédé à un examen physique de l'enfant.
Aucune idée.
Vous êtes pas au courant?
Je suis pas au courant.
Vous avez pas autorisé quoi que ce soit?
Non.
OK. Et après, combien de temps ce dossier s'est ouvert une deuxième fois?
Ça s'est ouvert une deuxième fois, c'est en février 2014 que la dame revient chez moi. Je vous dirais. Une année après.
Alors,
j'ai jamais revu cette dame.
Depuis le coup de sac sur la tête là, vous n'avez et l'histoire de la famille d'accueil le lendemain, puis ils ont remis vos enfants. Un an après,
oui,
hein, une année après, la DPJ débarque chez vous.
Elle débarque chez moi.
Pourquoi, madame?
Elle dit qu'elle a une mesure volontaire à me faire signer.
Vous avez signé, mais là, pour l'événement, pour le même événement? De l'été de 2013?
Probablement, mais sauf que qu'est-ce que je ne comprends pas? C'est une année après.
Une année après?
Oui.
Mais une année après, par rapport à l'événement de 2013, il n'y avait pas une autre dénonciation?
Non, il n'y avait pas d'autre dénonciation.
Il n'y a pas d'autre signalement, quoi que ce soit?
Non.
Alors, ils ont laissé une année après pour venir avec un rapport. On vous a dit, écoutez là, on va décider de retirer les enfants.
Même pas. Ça s'est continué que la travailleuse sociale qui est venue à la maison me présente une autre travailleuse sociale. Elle me dit c'est une autre travailleuse sociale.
OK.
Comme je vous le dis. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est quand elle me dit c'est une autre travailleuse sociale, c'est une dame qui fait l'application des mesures. Parce que j'avais aucune idée à l'époque c'était quoi l'application
des
mesures.
Vous ne le savez pas?
Non.
Ouais. Et vous avez signé ce document-là?
Quand je l'ai signé, elle m'a dit pas besoin de voir un avocat ni rien, c'est juste pour avoir la paix. C'est notre contrat à nous, on n'a pas besoin d'aller à la cour.
C'est un suivi. C'est un suivi.
C'est un suivi, comme elle dit.
Et vous avez signé des conditions. C'était quoi les conditions que vous avez signées?
Oh my God. Des drôles de conditions.
Vous les avez lues avant de signer, madame?
Non, même pas. Elle m'a pas laissé voir le document, elle m'a juste dit de signer.
Elle vous a pas expliqué les conditions?
Non.
Elle vous a
aucunement.
Pas donné le temps de lire les...
Non, aucunement.
Elle vous a demandé, voulez-vous me signer ce papier-là? C'est comme ça que
Exactement. Jusqu'à ce que j'ai su par la suite.
Madame, vous avez quand même, vous avez étudié en secrétariat et tout.
Exactement.
Vous n'avez pas pris le temps de dire c'est important de lire, je ne vais pas
quand
signer.
Quand je lui ai demandé, elle m'a forcé la main quasiment. C'est quasiment un forçage, là. Allez, madame, pas besoin de regarder, signez-le, s'il vous plaît. Faites pas plus de choses. Sans ça, ça va aller plus peur et on va vous retirer les enfants, j'ai dit. Et wow.
Quand ils vous ont dit on va vous retirer les enfants, là, vous avez signé.
Oui, c'est comme du forçage de main, là.
Mais vous ne le regrettez pas aujourd'hui, parce que quand même, on vous donne un papier de signer, madame. C'est un peu spécial. Là. Je signe un papier. Moi, je veux lire. Qu'est-ce que je veux signer?
Oui, exactement ce que j'ai demandé. Elle était en train de me obstiner quasiment. Elle me dit non.
Alors, vous avez signé, malheureusement. Vous avez signé.
Oui, malheureusement.
De toute façon, ce n'est pas malheureusement. Vous le signez. Si vous ne l'avez pas signé, ça a été pire. C'est ça ce qu'elle vous a expliqué?
Exactement.
Alors, si c'est pire, on signe tout. Parce que c'est les enfants qui étaient en jeu.
Oui, exactement.
Alors, après ça, elle est partie?
Elle est partie.
OK. Et qu'est-ce qui est arrivé après?
Par la suite, ils m'ont dit, bon, pour enlever les motifs de contre-émission, parce que je ne savais pas c'était quoi à l'époque, contre-émission, bien, vous allez faire un atelier.
Vous allez suivre des ateliers?
Oui.
OK. Est-ce que vous avez suivi ces ateliers-là?
Bien oui.
Vous avez suivi tous les ateliers à la lettre?
Tout. À la lettre.
C'est quoi ces ateliers? À propos de quoi? Concernant quoi?
Ils disent ça s'appelle Grandir Ensemble. Et c'est
Grandir pour... Ensemble?
Oui.
OK. Mais vous, là... avant cet événement-là, de 7 ans, 8 ans, je ne sais pas combien d'années, là, est-ce que votre famille, est-ce que des gens qui vous reprochent comme quoi vous avez un problème avec vos enfants ou quoi que ce soit?
Non, personne ne reproche rien.
Vous êtes une excellente maman, vous faisiez votre devoir, vous faisiez ce qu'il faut pour qu'une mère
fait avec chagrin de vous chez le médecin, je n'ai pas manqué aucune, les vaccins, tout est fait.
Le vaccin, tout, là. Vous faire le suivi, là.
Tout.
Êtes-vous une femme, une mère attachante à vos enfants?
Oui.
OK.
Et même les enfants me réclament, encore aujourd'hui.
Ah, mais là, ils ne sont pas rendus encore là. Alors, ils décident, là, de vous avez suivi les ateliers, vous avez été plié à toutes les conditions, toutes les exigences de la DPJ et tout.
Oui.
Et malgré ça,
Malheureusement, j'ai su par la suite qu'ils voulaient me mettre une éducatrice en plein mois de juin.
Chez vous?
Chez nous.
Elle peut rentrer à tout moment pour voir les enfants?
Elle dit qu'elle rentre à tout moment pour montrer la routine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait raconter, mais
pour
à la
vous
fin...
expliquer comment vivre avec vos enfants?
Exactement. Je lui ai dit, j'ai pas besoin de ça. Mais je sais comment vivre avec mes enfants.
Et qu'est-ce qui est arrivé, madame?
Et par la suite,
vous n'avez pas refusé? Elle venue cette dame-là chez vous?
J'avais refusé, totalement refusé.
Okay.
La travailleuse sociale m'a dit, ça serait à votre intérêt de la garder chez vous. J'ai dit, on est en plein mois de juin, j'ai pas de besoin d'éducatrice. Qu'est-ce qu'une éducatrice vient faire au plein mois de juin quand les examens sont presque terminés?
Mm-hmm. Et sur ce refus-là, qu'est-ce qui est arrivé, madame?
Par la suite, elle m'a exigé d'avoir l'éducatrice que j'ai vue peut-être deux fois dans le mois de juin. Par la suite, je ne l'ai pas revue jusqu'au mois d'août. Puis au mois d'août, elle revient à la maison, mais c'est pas pour m'aider avec les enfants ou quoi que ce soit. Je vois qu'elle faisait tellement une inspection de la maison, qu'elle était même dans mon sous-sol, elle fouillait. Je sais pas qu'est-ce qu'elle cherchait.
Oui. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose?
Non.
Et elle a pas trouvé des arbres destructueux?
Mais non.
Et puis elle a... Après ça...
Par la suite, mais je lui ai dit, vous venez pas pour faire votre mandat, donc je vous plairais de sortir de chez moi, parce que je vois...
Ah, vous avez demandé de sortir chez vous?
Oui, puisque je vois que vous faites pas qu'est-ce que vous devez faire.
Parce que finalement aussi, vous avez senti un petit peu menacé dans votre propre maison, quoi.
Exactement.
L'intimité n'est plus là. Les gens, ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent.
Exactement.
Oui. Ça vous a choqué, ça vous a révolté à l'intérieur.
C'est vraiment...
Et c'est ça qui a fait que vous demandez sortez de chez moi, s'il vous plaît.
Oui.
Et ce mot-là vous a coûté cher parce que après ça, ils vous ont enlevé les enfants?
Pas sur le moment, non. Par la suite, j'ai appelé leur chef d'équipe.
Pour se plaindre?
Pour me plaindre, parce que j'ai vu que ça n'avait pas de bon sens.
Sans aller trop loin?
Oui. Parce que leur chef d'équipe m'a donné raison et ils les ont transférés dans un autre bureau.
La travailleuse sociale, ils ont changé de travailleuse sociale. Elle travaillait l'intervenante sociale. Là.
Non, ils ne l'ont pas changé. Ils l'ont juste transféré dans un autre bureau.
C'est ça. Mais elle ne venait pas chez vous, là?
Non, elle ne venait pas chez moi. C'est ce que je l'ai vu à peu près au mois d'octobre.
OK. La même personne?
Oui.
Et qu'est-ce qu'elle est venue vous voir?
Elle est venue me voir pour me dire qu'elle voit que, comme j'ai porté plainte à son chef d'équipe, que...
C'est la même personne? C'est la même.
La même.
Celle que vous avez fait une plainte contre elle?
Oui.
Elle revient vous voir.
Elle revient me voir et elle me dit que comme elle voit que j'ai porté plainte à son chef d'équipe, mais elle, elle garde toujours mon dossier.
Elle va continuer de garder votre, votre dossier.
Oui. Okay. Elle menace, là. Vraiment, elle commence à me menacer aussi, là.
OK. Et vous faites quoi, là? Vous savez qu'elle est toujours dans le décor. Vous faites quoi, madame?
Ben, je l'écoute, mais j'ai rien dit de plus. Juste à ce que j'ai entendu qu'elle, maintenant, elle veut m'emmener au tribunal.
Elle a décidé de vous emmener au tribunal?
Oui.
Pour?
Pour
enlever les enfants?
Oui. C'est tout ce qu'elle voulait faire.
Alors, écoutez, chère autrice, chère auditeur, vous allez voir cette mère-là, comment elle va perdre ses enfants. Alors, on va juste faire une petite pause musicale très rapidement. On va revenir parce qu'il y a quand même le père de cette mère-là qui est en face de moi aussi, qui a envie de parler. Alors, on va juste faire une petite pause musicale. On va revenir avec la suite de cette histoire. Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et nous sommes aujourd'hui avec le sujet de la direction de la protection de la jeunesse. On parle un petit peu des abus des fonctionnaires, justement, de cette institution. Nous avons, j'ai dans le studio une maman de 30 ans qui vient malheureusement de perdre ses deux enfants et son père qui est là pour justement lever le voile sur un autre épisode d'injustice, d'abus de pouvoir de cette institution judiciaire, cette institution, pardon, gouvernementale. Alors, rebonjour, madame Danielle
Dorsus.
Revenons maintenant, nous sommes à la cour. Alors, la protection de la jeunesse décide d'amener votre dossier devant un juge.
Oui.
Alors, comment est-ce qu'ils ont révélé est-ce que quand une fois vous êtes rendu à la justice, ils ont dit que madame la maman elle a frappé son enfant avec un sac de pain de tranche là, de tranche, et c'est ça qui a et c'est des motifs pour vous conduire à la cour ou
moi à l'époque je pensais que c'était juste pour ça, mais finalement ça a été rajouté en
vous avez trouvé
de...
un autre dossier là.
Oui, je
la version
un...
a changé. Oh, oui. La version a changé totalement. Là.
Totalement.
Ce n'est plus la crise de votre enfant pour avoir une crème glacée, ce n'est plus la tape du morceau de pain
non,
sur la tête.
Non, c'est même là. Plus ça qui les intéresse alors actuel, je vous
alors,
dis.
Alors là ça a changé complètement là. On parle de en 2013 qu'ils ont fait un examen physique à l'enfant et puis ils ont découvert des traces et des marques. Alors, ils vont se laisser jusqu'à 2015, et 2015, il n'y a personne qui peut prouver quoi que ce soit qu'il y avait des traces, parce que s'ils vous ont dit sur le coup, sur place, comme quoi il y avait des traces, vous avez pu aller voir un médecin, vous allez faire une expertise.
Exactement.
Pour vérifier vraiment, pour montrer ou démontrer hors tout doute comme quoi c'est pas vrai, il n'y avait pas de traces.
Exactement.
Et alors, devant le juge, expliquez-moi qu'est-ce qui est arrivé devant le juge. Là, vous êtes devant le juge, mesure un petit peu exceptionnelle, parce que là, ils veulent vous enlever carrément les enfants.
Oui. Le juge, lui, il voit que ce n'est pas un cas aussi urgent et mortel. Comme il dit, il voit que les enfants sont en bonne santé. Donc, le juge a dit, bon, Madame Dorsier, vous allez devoir juste collaborer avec eux à la prochaine audience. Si vous collaborez bien avec eux, vous partez avec vos enfants.
Okay.
Et mais c'est fini.
Finalement, si j'ai bien compris, là, c'est-à-dire la collaboration, parce que le fait de dire à cette, à des fonctionnaires de la DPJ qui rentrent et sortent chez vous, là, comme bon gré,
oui.
C'est ça, ça vous a révolté de rentrer chez vous, de sentir un petit peu, envoyé dans votre propre intimité. Alors, parce que le fait de leur dire, écoutez, sortez parce que je vois pas de motif pourquoi vous êtes ici, c'est ça, finalement, qui a fait vraiment.
Qui a débordé le vase,
là,
oui.
C'est ça, hein.
Et là, ça évente vraiment, je vous dis, là, mon dossier est tellement haut, on dirait que je suis plus qu'un monstre.
Oui, la version a complètement changé.
Exactement.
Alors là, le juge vous dit, il faut collaborer avec les agents et tout, puis on va voir. Et puis, à la nouvelle audience, il vous donne une autre audience, date d'audience.
Le 23 janvier.
Le 23 janvier, vous retenez devant la cour.
Oui.
OK.
Et là, je vois qu'il y a un changement de juge, donc.
Ils ont changé de juge.
Oui.
Et qu'est-ce qui est arrivé là?
Par la suite, la dame, elle ne connaissait pas le dossier.
La juge?
Oui, la juge ne connaît pas le dossier, donc elle étudie à l'aveuglette et elle dit, bon, placez les enfants tout de suite.
Et elle dit à la DPJ, parce que la DPJ, ils ont demandé de placer les enfants.
Exactement.
Et la juge a directement dit, OK, c'est bon, c'est ça.
Exactement.
La proposition est correcte et on passe à l'action. Mais est-ce qu'elle vous a laissé le temps de parler, d'expliquer un petit peu votre cheminement et tout?
Non.
En aucun moment. Est-ce que vous avez expliqué comme quoi vous avez refusé que les fonctionnaires de la DPJ rentrent chez vous de cette manière-là? Il n'y avait pas de motif réel pour ça?
Ils ne m'ont même pas laissé parler.
Vous n'avez pas dit un mot.
Ils ne peuvent même pas me laisser dire
alors,
un mot.
Alors, il marquait comme quoi la
juge refusait même d'entendre.
De placer les enfants, point la ligne. Et
exactement.
La juge, elle a dit, voilà, c'est ça ce qu'il faut. C'est
exactement.
Ça? Alors, vous partez, madame, et vous n'avez plus vos enfants. Depuis quand vous n'avez pas vu vos enfants, madame?
Depuis le 23 janvier 2015.
Depuis 23 janvier 2015, vous n'avez pas vu vos enfants. Et non. Cette mesure-là, est-ce qu'ils vous ont donné une date, qu'à un moment donné, est-ce que vous voyez vos enfants à une visite supervisée ou non?
Visite supervisée, oui. Attends goutte.
OK.
Oui. Par la suite, après que quand la famille d'accueil, ça ne marche plus avec la famille d'accueil qui me laisse visiter les enfants.
Oui. Allez, madame, mais est-ce qu'il y a une date? Ils ont dit que vous allez revenir à la cour pour revoir à un moment donné, reprendre vos enfants ou c'est fini là?
Là, c'est totalement terminé. Le 13 février, pourquoi ils m'ont fait retourner à la cour? C'est pas pour reprendre les enfants, c'est parce que ça va plus à la famille d'accueil. Donc.
Pour?
Oui, quand ils sont allés à la famille d'accueil le 23 janvier.
Oui, ils ont mis dans une famille d'accueil.
Oui.
Mais on va revenir avec votre père, parce que votre père, il est là.
Oui.
Vous avez quand même un père et une mère.
Oui.
Oui, vous avez votre père et une mère. Ils ont leurs grands-parents.
Oui.
Est-ce que les grands-parents, ils ont demandé de garder les enfants?
Mais oui.
Oui.
Ils ont demandé au juge, écoutez, là, si vous pensez que ma fille, elle ne peut pas les garder, ce n'est pas le cas, alors au moins...
Donnez-le nous.
Aux grands-parents.
Oui.
La cour, elle a refusé.
Totalement refusé.
Et ils ont amené les enfants dans une famille d'accueil. Vous ne savez pas quelle est la famille d'accueil?
Non.
Et voilà, c'est ça l'enjeu. Alors, bonjour. Vous êtes monsieur...
Chamette Dorsais.
Dorsais, oui. Vous êtes le père...
Je suis le père de Daniel Dorsais.
OK, Dorsais. Et vous, monsieur, là, vous êtes... votre fille, elle est née ici au Québec, hein?
Oui, elle est née à Saint-Justine.
À Saint-Justine.
En 1984.
Et vous êtes d'origine haïtienne?
Je suis haïtien.
Haïtien, d'origine. Oui. C'est facile de taper sur les haïtiens, hein?
Oui.
Si, c'est facile, hein?
C'est pas très, très difficile.
Oui, c'est pas compliqué. Est-ce que je peux savoir, monsieur, là, maintenant, là, vous avez vécu ici au Québec depuis combien de temps?
Oh, je vivais ici depuis 24 mai 80. Ça fait 35 ans.
35 ans, vous êtes ici, là. Est-ce que dans ces 35 ans, vous avez travaillé?
Oh, j'ai travaillé dans les hôtelleries.
Dans les hôtelleries pendant...
Oui. pendant à peu près 25 ans.
Pendant 25 ans. Et vous êtes aujourd'hui retraité?
Oui, 2014, là, j'ai pris retraite.
Vous êtes retraité?
Oui, ça fait un an.
Mais monsieur, est-ce que vous avez des antécédents judiciaires?
Non.
En aucun moment, vous avez un problème avec la police?
Jamais de problème avec la police. C'est la première fois que j'ai rentré dans le tribunal.
C'est la première fois dans ce cas, dans le cas de votre fille.
Ma fille Danielle Dostis.
Oui. Mais avant ça, vous n'avez pas de problème?
Non.
Non.
Aucun
problème. Est-ce que vous avez entendu parler de la DPJ avant?
Bon, quand j'ai entendu parler des protections de la jeunesse, moi, j'ai pensé que c'était un compagnon qui a protégé les enfants.
Ben oui, mais c'est ça, moi, la protection de la jeunesse. Ben
mais
oui.
Pour moi, là, il n'a pas protégé les enfants. Il n'aime pas les enfants. Il maltraitait les enfants.
Non, non, mais avant cet incident-là...
Avant cet incident, moi, j'ai pensé qu'il protégeait les enfants.
Vous pensez vraiment que c'était fait pour protéger les enfants?
Pour protéger les enfants,
okay. Ouais. Avant d'aller à cette conclusion-là, comme quoi ce n'est pas vrai, il ne protège pas les enfants, parce que enlever dans le cas de votre fille... séparer les enfants de la mère, là, c'est loin d'être protégé.
Ouais.
Vous avez travaillé pendant 25 ans, vous êtes retraité, vous avez fondé une famille, la preuve, c'est votre fille, elle est là, et d'autres enfants et tout. Vos enfants n'ont pas de problème avec la DPJ en aucun moment, à part cet incident-là.
J'ai enlevé 5 enfants à Montréal.
Okay.
Moi, je viens aucun ici problème. Pour capable protéger, aider les enfants.
Justement, pourquoi vous avez choisi de venir aussi au Québec?
Bon, j'ai choisi de venir pour un changement de vie.
Pour un changement de vie meilleur, ouais, ou quoi?
Meilleur.
Vous cherchez quoi? L'éducation, la protection?
L'éducation, la protection.
La justice.
La justice.
OK.
Mais pour moi, il n'y a pas de justice.
Non, mais maintenant, là, vous êtes révolté, là, maintenant,
justice,
je comprends.
Il y a une justice, là. Ah. Mon cœur est déchiré, là, parce que la façon... Le 23 janvier, je suis accompagné ma fille Danielle au tribunal. J'ai resté dehors dans ma voiture. J'ai chauffé ma voiture de 9h du matin à 5h jusqu'à 6h du soir.
Oui.
Daniel est sorti, moi j'allais pour entrer vers 2h, la sécurité arrive et dit non c'est long, ça va aller, tous les enfants sont là avec sa fille en haut, il faut attendre.
Ah, les enfants ils étaient dans la cour aussi?
Okay, j'étais dans la cour aussi. À 6h, moi je vis Daniel avec ta mère sorti, pas d'enfants. Moi j'ai dit, où est l'enfant?
Ils sont où les enfants?
Ils sont enlevés.
Oh my God.
Ils sont amenés dans la centre d'accueil jusqu'à la colle, dans les routes aux États-Unis.
Ouais.
Ça fait à peu près 3 mois, jamais montré à quelle place ils plaçaient les enfants.
Ah, pendant 3 mois, vous n'avez pas su, ils étaient où placés là?
Non.
Quelle place? Quel endroit?
Jamais montré à quelle place.
Mais monsieur, là, vous avez témoigné devant la cour?
Oui, j'ai témoigné déjà.
Oui.
Avec le juge.
Oui.
Moi, j'ai dit, madame juge, le 13 février, quand envoyé, après 15 jours, pour les enfants des Hadi, les choses qui ont été passées là, bon, nous avons ajouté sa fille là-dedans encore. On va tout envoyer ma fille. Émis avec Adi comme frère et soeur, moi j'ai compris. Mais vous avez dit toujours, t'as pas de temps pour vérifier votre dossier.
Oui.
Moi, je suis pas capable de rester bras croisés. Moi, j'ai allé au droit de la personne.
Ah, vous demandez l'aide. Vous avez demandé de l'aide parce que c'était un petit peu.
J'ai trouvé, ça fait 35 ans, moi je suis dans mon pays.
Oui.
J'ai dit, là j'ai trouvé mon juge là, a changé de couleur. Pendant que j'ai parlé du droit de la personne.
Oui.
Mais après, les avocats ont demandé une autre rencontre encore. Il faut me témoigner.
OK. Je comprends. Mais avant de faire ces plaintes-là, je comprends que vous êtes dans un état d'âme un petit peu révolté et tout. Mais est-ce que vous avez demandé au juge, écoutez, là, est-ce qu'on peut au moins garder les enfants?
Garder les enfants.
Tu as demandé. Tu as fait la demande?
J'ai fait la demande.
Et qu'est-ce qu'il a dit, le juge?
Il a dit, est-ce que je suis capable d'occuper les enfants? Moi, je dis oui. C'est mes enfants. J'aime les enfants.
Vous êtes deux fois père de ces enfants-là.
Oui. C'est le grand-père. Moi, je dis, c'est mon père. Il a demandé, est-ce que j'ai un dossier judiciaire ici? Moi, j'ai dit non, je connais.
Antécédent, j'ai pas d'antécédent.
J'ai pas d'antécédent.
Aucun problème. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, retraité.
J'ai travaillé, j'ai fait des hôtels, un le jour, un le soir. J'ai toujours occupé mes enfants.
Oui.
Les fins de semaine, quand je congé, j'ai pris mes enfants, j'allais au McDonald's. J'ai fait l'activité avec mes enfants.
Oui.
Là.
Et vous étiez prêt pour prendre soin de vos.
Pour prendre soin de mes enfants.
Oui, oui.
Là, moi, je comprends, mais je connais que les juges là-bas. Va remettre les enfants.
Oui.
Il n'a jamais
remis. Vous avez pensé qu'il va vous donner les enfants sur place?
Il n'a pas jamais remis.
Oui.
Et puis, pendant, les avocats ont demandé un autre jugement, 3 jours méga procès.
Oui.
20, 22, 25.
25 mai.
Bon, mercredi 25 mai,
oui.
La troisième journée, moi j'étais resté dans le couloir.
Oui.
La madame, comment s'appelle, Christine?
Catherine Patry.
Catherine Patry, c'est un. Comment s'appelle ça? Éducatrice.
Oui.
C'est elle qui va prendre l'enfant à la colle pour amener à Boulevard Pinef pour sa mère Danielle capable
elle
de visiter.
Elle peut le voir.
Elle peut le voir.
Oui.
Elle a, mais je ne sais pas si elle a su le dose là. Elle a les enfants, ça fait une petite discussion pour mon anniversaire de son grand-père.
Oui.
Il dit, les enfants parlent trop dans sa tête, il retourne avec les enfants. Quand il retourne, il n'a pas trouvé un monsieur qui s'appelle Papi avec Mamie dans le centre de la colle.
Oui.
Les vieux, là, est parti, est sorti. Il n'a pas trouvé les gens. Il commence à parler avec les enfants. Amy, sa fille, a sorti dans ta voiture. Il a pris ta voiture pour passer sous Amy. Il a même raconté ça devant le juge. Même les avocats ne disent rien. Personne ne dit rien.
Monsieur,
là, moi, j'ai bouleversé. Moi, j'ai dit, mais c'est pas un animal, même un chien.
On ne peut pas traiter un enfant comme ça.
Oui. Il avait dit, c'est pas Adi, comme son frère, qui dit, hé, hey, madame, tu vas briser, tu vas casser Amy. Tu vas y casser Amy. Il met pied sur le brique. Il n'a pas passé la voiture sur Amy. Oui. Ni les avocats, ni les juges.
Il n'y a personne qui a parlé de ça.
Personne n'a pas parlé de ça.
Mais je veux savoir maintenant, vous là, vous dites que. Je comprends que. Je comprends que. Y a pas, selon la version de votre fille, il n'y a vraiment pas de motif réel là, pour placer les enfants dans une famille d'accueil.
Non.
Malgré ça, vous avez souhaité au moins de garder les enfants avec vous.
Moi, je souhaitais pour garder les enfants avec moi. Et puis moi, j'ai dit à manger, j'ai capable d'aider ma fille. C'est pour ça, moi, je travaille trop dur pour aider ma famille. J'ai pas besoin d'aide.
Mais
parce
vous,
que ma,
pour
les travailleurs sociaux, comment s'appelle Marie-Ève
Hébert,
il avait demandé, oui, parce qu'elle veut pas l'aide. Moi, j'ai dit, j'ai pas besoin d'aide. Je suis capable.
Mais revenons avec vous, madame.
Oui.
Vous avez quand même étudié en secrétariat, vous avez réussi vos études, vous avez travaillé, vous avez une certaine autonomie aussi. Là.
Ben oui.
Oui. Alors, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Parce que malheureusement, on n'a pas assez de temps là pour continuer un petit peu vraiment votre histoire parce qu'elle est bouleversante. Et en même temps, qu'est-ce que vous avez comme sentiment ce matin? Là, je comprends que vous avez quand même pris le temps, vous avez tout fait pour essayer de reprendre vos enfants, mais à un moment donné, c'est comme un mur qui se dresse devant vous et vous ne pouvez plus rien faire.
Je me sens déchirée.
Oui.
Je suis vraiment traumatisée moi-même de la DPJ aujourd'hui. J'aurais jamais pensé que ça irait jusqu'à là. Et moi, je pensais qu'au début, que la protection de droits de la jeunesse, c'était pour aider les enfants qui sont vraiment maltraités par les parents tous les jours, que les enfants se sont laissés à eux-mêmes, que je sais qu'il y a des enfants qui ne mangent pas, que les parents ne donnent pas à manger. Ça, je pensais que c'était pour ce genre de type-là.
Oui.
Mais aujourd'hui, je regarde ça d'un autre regard et de voir encore les fonctionnaires qui écrivent pire que des romans de... En tout cas, ça me dépasse. J'aurais jamais pensé à ça aujourd'hui.
Oui. Alors, sentir comme quoi ils ont ce pouvoir absolu de rentrer chez vous et sortir et vous n'avez pas quoi que ce soit. Même vous leur demandez de sortir de chez vous parce qu'il n'y a pas de motif qu'ils sont en train de fouiller dans votre sous-sol et dans votre intimité et tout, ça vous a révolté. Juste le fait de leur demander de sortir de chez vous, sorte de vengeance, une sorte
Exactement.
De... Voilà, on va vous replacer à votre place. Et ce qui est douloureux aussi, malheureux, si j'ai bien compris, c'est devant le juge, vous n'avez pas vraiment totalement le temps d'expliquer à la longueur, et même si vous expliquez le juge vraiment,
vous dites toujours que vous n'êtes pas convaincu. Ça n'intéresse pas.
Un fonctionnaire de la DPJ, elle est au-delà de la parole de
Exactement.
Qui que ce soit. Oui, monsieur.
Excuse-moi.
Oui, vas-y, vite là, on n'a pas beaucoup
de temps. Pour moi, là, les trois jours méga procès, là, il fait toutes les personnes des PJ, les autres témoins, la personne, non, je ne peux pas même reconnaître là, dans la colle.
Oui.
Je ne connaissais pas, parce que 3 mois à la colle.
Ah oui, voilà,
il vient témoigner. Jamais laisser ma fille parler.
Même des gens qui sont étrangers de l'incident, étrangers de la vie, de votre propre vie, peuvent aller témoigner et on les écoute, alors que la vraie personne qui est le cœur de ces enfants-là, on ne l'écoute pas.
Exactement.
Ouais. Parce qu'il y a certains messieurs ou certaines dames de la DPJ, ils ont mis croix sur vous. Définitivement.
Ouais. Même les avocats avaient dit, il ne comprend rien là dans les DPJ. Personne n'est pas capable de poursuivre. Il n'y a pas de place. Personne n'est pas capable d'aller voir quelque part pour poursuivre les DPJ. J'ai dit non, monsieur, vous êtes un avocat. Vous étudiez. Moi, je suis un haïtien.
Ouais.
Ici, on vit sous la loi. Oui, moi, chez moi, c'est la démocratie. Oui. Mais j'ai respecté la loi. C'est un défenseur. Il ne pas défendre les enfants, tu ne pas défendre ma fille. Là.
Mais monsieur, il y a 35 ans avant de mettre les pieds ici au Québec, oui. Vous avez souhaité de venir vivre dans un pays où il y a la justice.
Oui.
Et aujourd'hui, là, quel est votre sentiment là, aujourd'hui?
Pour moi, là.
C'est trahi dans votre.
Pour moi, chez moi, là, c'est mieux. Ouais. Qui est ici, là, parce
vous regrettez d'avoir
je regrette d'avoir le juge.
Parce que vous venez de perdre vos petits-enfants.
J'ai perdu mes petits-enfants, et puis, moi, j'ai dit à mon avocat, écoute, là, moi, là, tu sais que je fais? J'achète ma maison, je dois vendre pour retourner chez moi.
Vous avez,
parce que
vous avez,
ici, mais oui, moi, j'ai dit ici, trop de discrimination.
Oui, ça, c'est bien dit. Mais madame, il reste 2 minutes, là, malheureusement. Oui. Les gens qui vous écoutent, là, je sais que c'est effondrant, parce que vous êtes devant moi, je ne vois aucun signe, là, qui dit qu'ici une mauvaise mère, ou... Écoutez, à la rigueur, on peut donner une tape à un enfant, on peut crier, c'est un enfant, mais... Est-ce que le châtiment allait à enlever, séparer une mère de ses propres enfants, est-ce que vraiment c'est un remède? J'ai de la difficulté à croire. Est-ce que vous avez, les gens qui vous écoutent ce matin, avez-vous quelque chose à dire?
Oui, faites attention. Ils peuvent venir chez vous.
À tout moment.
À tout moment.
Oui.
Première chose
personne
à savoir.
Personne n'est à l'abri de cette.
Personne n'est à l'abri.
Et si vous êtes tapé avec cette. Frappé avec cette protection de la jeunesse, là, c'est Dieu le Père, là, ça, c'est vous.
C'est carrément. Oui.
Exactement.
Bon, excuse-moi, je voudrais dire.
Je sais que vous avez trop envie de dire.
Les juges, là, pendant 3 ou 4 fois, il a demandé est-ce que tu as arrêté les parents ou bien ma fille, les enfants?
Oui.
Ni les avocats, personne n'a pas répondu.
Ouais.
Voilà. Ouais, là, il y a un petit point là sous le juge là, j'ai pas encore donné tort avec.
Monsieur, là, c'est pas.
Mais pour moi, les DPJ là, ouais. C'est un business à Montréal. Ouais.
Mais ça, c'est
un business.
Ça, c'est votre opinion, mais le grand sens. Écoutez là, j'ai bien compris que vous êtes révolté, madame. Elle est révoltée. Moi, tout ce que je vous dis, je vous salue, votre courage aussi. Tout ce que je souhaite, vous n'êtes pas la seule dans de son combat. Il y a des milliers de parents et milliers de enfants aussi qui souffre. Alors, chère auditrice, chère auditeur, vous avez tous suivi ce témoignage-là qui est accablant. Vraiment, la mère en face de moi, ça me déchire le cœur, moi aussi. Alors, tout simplement, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Je remercie énormément le grand-papa qui est en face de moi et la maman aussi.
Je vous remercie beaucoup.
Merci bien. On souhaite aussi... alors, je dis merci à Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cette fenêtre afin que la parole de l'autre existe. Chère auditrice, chère auditeur, dénoncer, c'est un devoir. Alors, sortez de votre silence, dénoncez publiquement, c'est une partie, on n'a pas de choix, on n'a pas le choix. Nous devrons vraiment foncer sur cette ligne-là pour arriver justement à stopper l'abus de pouvoir de la protection de la jeunesse. Sur ça, je vous dis à la prochaine.
Tu es un amateur de danse, tu aimes le hip-hop? Le 7 juin prochain aura lieu un événement de danse au Club Soda qui s'appelle Articien, animé par Vanessa Boudrias de Musique Plus. Articien est un showcase de danse professionnelle dans tous les styles tels que le hip-hop, le house et le popping. Andy Mitchell, un chorégraphe reconnu à l'international, est le créateur de cet événement depuis maintenant 5 ans. Procurez-vous des billets via le site www.articien.com et allez visiter notre page Facebook. Rendez-vous au Club Soda le 7 juin prochain à 7h30.
Vous voulez passer le TEF, le TEFAC ou le TEF professionnel pour les consultants? Vous ne savez pas quoi faire et comment réussir ce test? Contactez notre centre agréé au 514-844-4849 ou visitez notre site web au www.alcmontréal.com. ALC Montréal, une équipe de professionnels à votre disposition. Alors appelez-nous au 514-844-4849. ALC Montréal, centre agréé par la CCIP en partenariat avec Citoyenneté et Immigration Canada.
Montréal. Montréal, La Ronde sera l'hôte du plus grand festival compas au Canada. Le 20 et 21 juin, le festival Montréal sous compas vous attend. Au programme, animation, spectacle, manège. Une vraie activité familiale avec les meilleurs groupes. Jacoute Number One, Mika Ben, Karimi, Tabou Combo, T-Vice, Connexion et plusieurs autres. Admission, $25 par jour ou $40 pour les deux jours. Spécial valide jusqu'au 22 mai. Le 20 et 21 juin, venez en grand nombre à La Ronde pour vibrer au rythme des Caraïbes. Achetez vos billets maintenant.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.